suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Michel Foucault manque. Combien de fois s'est-on surpris à le penser depuis 35 ans à mesure qu'on découvrait, souvent rétrospectivement, tel ou tel élément caractérisant ce néolibéralisme qui nous gouverne et à propos duquel il fut assurément l'un des premiers à réfléchir, nous léguant de précieuses hypothèses et mieux, un programme de recherche. Comment, pour comprendre, opposer au concept de gouvernance qui s'est progressivement imposé à tous les étages de la société comme de l'État et du monde entier, celui de gouvernementalité proposé par Foucault dans les années 70, ce moment de bascule vers un nouveau régime de pouvoir, désormais en crise à son tour, avant même qu'on l'ait vraiment cerné. C'est sur ces crises manifestes de gouvernementalité que se penche dans un essai important Jean-Claude Monod. Il est cette semaine l'invité de la suite dans les idées. De Michel Foucault, de gouvernementalité ou pas, il sera toujours question dans la deuxième partie de l'émission. Michel Foucault, auteur mystérieux d'un dossier sauvage, ou plutôt l'auteur, c'est Philippe Artière qui nous rejoindra pour cette seconde partie de l'émission. Bonjour Jean-Claude Monod.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, vous enseignez à l'École normale supérieure et vous publiez donc aux éditions du Seuil l'art de ne pas être trop gouverné dans la collection L'Ordre philosophique. C'est un livre qui, au fond, part d'un constat qui est le suivant. Dans les années 70, de façon à peu près concomitante, ces deux mots, gouvernance d'un côté, gouvernementalité de l'autre, sont apparus, alors l'un porté par un ensemble d'acteurs sociaux qui réfléchissaient à l'avenir, à ce qui était en train de se passer, l'autre concept défendu et connu plus tardivement par Michel Foucault, connu rétrospectivement puisque ses cours ont été publiés après sa mort. Mais ces deux mots surgissent à un moment bien particulier, celui qui suit une crise économique importante et qui voit se reconfigurer, au fond, des modes d'exercice du pouvoir, d'organisation du pouvoir, à la fois s'agissant des États, s'agissant des relations entre les États, mais s'agissant aussi de niveaux plus infra, et les entreprises sont concernées, peut-être les familles sont concernées. Au fond, c'est de ce moment-là que vous êtes parti pour essayer de réfléchir à la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui et qui témoigne d'un nouveau type de refus d'être gouverné.
Oui, oui, exactement. Ça m'a semblé intéressant de repartir de ce moment des années 70, de la fin des années 70, où apparaissent des diagnostics qui ont l'air, au fond, de partager des choses et qui, en fait, sont assez divergents, je pense, qui partent de certains constats de crise et qui thématisent notamment un excès d'État ou une forme d'État invasive. Et donc ça prend la forme d'un côté de ces rapports de la tricontinentale, etc., qui sont des organisations qui estiment que les démocraties vont entrer en crise sous l'effet d'une surcharge de demandes sociales et démocratiques, que l'excès d'État est déjà en faillite sur du côté du bloc soviétique, et qu'il faut donc penser quelque chose de beaucoup plus souple dans le mode de gouvernement, où l'État ne serait au fond qu'une variable, et c'est ce qui se dessine sous le nom de gouvernance. Et parallèlement à ça, c'est vrai qu'il est assez frappant de voir que Michel Foucault, forge un concept, aussi un néologisme. Alors, gouvernance n'est pas tout à fait un néologisme, plutôt un ancien mot anglais qui est réactivé. Mais Foucault, lui, forme ce néologisme de gouvernementalité, en un sens aussi pour analyser quelque chose qui ne se limite pas au pouvoir d'État, qui est plus diffus, qui est aussi peut-être plus réversible, un rapport de pouvoir relativement souple, qui implique la conduite des conduites, qui implique d'orienter la conduite des individus. Et alors là, dont le spectre, je dirais, d'études est beaucoup plus large chez Foucault, puisqu'il va remonter, au fond, il va remonter jusqu'au grec d'ailleurs, et jusqu'au rapport de soi aux autres, ce qu'il appelle le gouvernement de soi. Mais donc, j'ai trouvé que c'était intéressant, c'était une sorte de symptôme d'une crise qu'on ne sait pas trop saisir, c'est le fait que le politique est plus tellement assignable simplement à l'État, qu'une forme de régulation des rapports entre société et État est ici questionnée. Et c'est vrai que chez Foucault, ça prend la forme d'un intérêt très précoce pour le néolibéralisme, qui est quand même une des forces qui vont reconfigurer les rapports entre État et société, économie, dans les décennies qui suivent. Ça prend aussi la forme d'interrogation sur ces nouveaux mouvements, ce qu'il appelle des luttes pour des nouvelles formes de subjectivité. Donc il y a beaucoup de foyers de l'interrogation. Mais il est évident qu'aujourd'hui, si on reprend ces questions 40 ans après, on est sans doute à la fin d'un cycle aussi. C'est-à-dire, il y a d'autres crises. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une certaine crise de l'État néolibéral, une certaine crise du néolibéralisme qu'on constate par exemple au Chili. Mais en un sens, je pense qu'en France, la crise des gilets jaunes pouvait être vue comme l'expression aussi d'une certaine crise de l'État néolibéral. Et donc, ça invite évidemment à relire ces textes de Foucault, éventuellement à solliciter aussi, bien sûr, d'autres sources pour voir ce qui entre en crise aujourd'hui.
Au fond, c'est cette période milieu des années 70 jusqu'à ces dernières années qu'il s'agit de considérer sans fétichiser les dates et les bornes, parce qu'évidemment ce néolibéralisme il ne surgit pas comme ça au début des années 70, il a une histoire, il faut en faire la généalogie, elle est longue, Foucault s'y est employé, il revient sur l'ordolibéralisme allemand, sur la façon dont tout ça se met en place dès les années 30, puis après la guerre en particulier. Ouais. Mais néanmoins, il se passe des choses en termes de gouvernement dans le début des années 70 qui ont à voir aussi avec la mise en place des ce qui va rendre possible la mondialisation financière, des changements fondamentaux dans l'organisation de l'économie mondiale, en fait.
Oui, il y a une histoire stratifiée du néolibéralisme ou de l'ordolibéralisme. Et d'ailleurs, Foucault, au fond, ce sont des cours. Il y a un caractère, je pense, d'exploration. Il essaye de distinguer différentes formes, différentes sources. Et sûrement, d'ailleurs, dans la façon dont les choses se sont produites en Europe, aux États-Unis, au Chili, on voit qu'il y a des variantes de néolibéralisme, il y a des choses qui s'inspirent peut-être plutôt de l'ordolibéralisme allemand, sans doute d'ailleurs dans la construction européenne, qui au départ n'était d'ailleurs pas tellement ordolibéral. Les ordolibéraux étaient plutôt réticents ou méfiants vis-à-vis de la construction européenne, parce qu'ils voyaient une sorte de grande machinerie qui leur faisait penser à du socialisme ou à du planisme. Et puis finalement, les gens qui ont construit l'Europe, les hauts fonctionnaires, etc., ont eux-mêmes largement adopté une vision qui, au fond, plaçait quand même le marché et la défense du marché en une situation prédominante. Et au fond, l'idée un peu de protéger à la fois peut-être l'état de droit et le marché contre les peuples eux-mêmes, c'est aussi emparé de l'Europe. Bon, ça, c'est plutôt l'ordolibéralisme allemand de Huyken, de Röpke, que Foucault d'ailleurs documentait. Moi, je suis revenu un peu sur ses écrits qui sont d'ailleurs aussi des diagnostics de crise, qui réagissent eux-mêmes à parfois à des formes de totalitarisme, etc. Donc, je pense qu'il faut resituer aussi les écrits néolibéraux et ordolibéraux dans leur contexte d'origine. Et puis, il y a la forme peut-être la plus agressive et la plus connue de néolibéralisme qui se mue vraiment en une sorte de machine de destruction de l'État-providence, ou en tout cas de restriction assez forte de l'État-providence, de redéploiement de l'État, mais au service justement de l'économie de marché, éventuellement d'extension de la logique du marché à l'ensemble des comportements. Et là, un auteur très intéressant, c'est Gary Becker, je trouve, qui vraiment, avec cette théorie du capital humain et de l'incitation, invite au fond à un mode de gouvernement qui évidemment intéresse Foucault, et qui est un gouvernement qui agit moins par la répression, beaucoup plus par l'incitation, mais qui n'en oriente pas moins en profondeur le comportement des individus, et d'une manière, au fond, extrêmement économiciste, c'est-à-dire tout devient susceptible d'être transformé en incitation économique ou en désavantage économique, y compris, par exemple, quelque chose comme l'asile. Gary Becker dit, oui, au fond, il faut faire payer très, très, très cher l'asile, comme ça, les vrais demandeurs pourront payer, et les autres, donc des logiques assez aberrantes, ou de monétarisation de choses qui devraient échapper à l'argent. Mais donc, voilà, il y a cette reconfiguration dont Foucault sent très bien les prémices. Hein. Je pense qu'il saisit quelque chose qui va effectivement transformer les modes de gouvernement.
Et alors, il saisit, il a des intuitions, etc. Mais tout ça, on va mettre tous autant qu'on en est assez longtemps avant de comprendre véritablement ce qui est en train de se passer. Il faudra pour ça que des chercheurs aillent au-delà des mots, et en particulier du mot libéralisme, pour décrire des choses contre-intuitives de ce point de vue. C'est-à-dire que ce néolibéralisme, en fait, il peut très bien se servir de l'État, par exemple, contrairement à ce qu'on pouvait penser. Il n'est pas très libéral, peut même être très autoritaire. Enfin, je pense à tous les travaux, par exemple, pour ne citer qu'un nom, celui de Jean-François Bayard, qui nous a permis de comprendre la mise en place sociologique de tout cela. Mais je voudrais revenir sur ce, justement, sur ce masque, sur ce mot masque, qui est libéralisme, sur lequel vous écrivez, Jean-Claude Monod, pour souligner à quel point, au fond, le libéralisme politique classique, celui qui naît en particulier se développe au XVIIIe siècle et qui est vraiment adresse à l'État, en particulier à l'État absolutiste, une critique très forte. Comment il se trouve, je ne sais pas si on peut dire dévoyé, enfin finalement, est-ce que c'est vraiment de la même chose dont on parle?
Oui, ça c'est une question, effectivement, Foucault avait essayé d'attirer l'attention sur le fait que le néolibéralisme, c'était pas du tout simplement moins d'État, c'était ce qu'il appelle une gouvernementalisation de l'État, c'est-à-dire quelque chose qui met l'État au service actif. Du marché, au service actif, disons, des intérêts dominants économiques. Et alors, de ce point de vue-là, ça n'est pas conforme d'être à l'idée qu'on a du libéralisme économique. Mais moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est cette dimension potentiellement autoritaire du néolibéralisme. Alors, c'est inégalement vrai, hein, des promoteurs intellectuels du néolibéralisme, mais un certain nombre disent tout à fait posément qu'il vaut mieux une dictature de droite qu'un socialisme démocratique. Et bon, c'est toute l'ambiguïté, enfin, plus que l'ambiguïté, des rapports de Hayek ou de Milton Friedman à l'expérience chilienne. Et donc, on voit que la question des libertés politiques, qui est quand même au centre du grand libéralisme, disons, du XVIIe, XVIIIe siècle, et à mon avis, quelque chose qu'il faut défendre, hein, et qu'il faut défendre aujourd'hui, y compris peut-être contre le néolibéralisme autoritaire. Et bon, je pense que Foucault est assez ambigu sur ces questions, mais en tout cas, il y avait effectivement une dimension qui échappait complètement à ce libéralisme classique et qui donne lieu aujourd'hui, je trouve, à ces formes de néolibéralisme autoritaire avec des degrés, où on voit par exemple le recours très rapide à des formes d'état d'urgence ou d'état d'exception pour répondre à des conflits sociaux, où on voit un usage au fond qui grignote un usage de la force publique ou justement de procédures d'exception qui grignotent les droits fondamentaux. Donc il y a une tension qui est apparue, je crois vraiment, entre le libéralisme classique et le néolibéralisme autoritaire, qui fait aussi qu'on peut jouer d'ailleurs une certaine ressource du libéralisme classique. Et il y a, je crois, des revendications aujourd'hui, y compris dans ces soulèvements actuels, puisqu'on voit qu'il y a quand même énormément de soulèvements populaires, des gouvernés, qui réclament aussi parfois la mise en place d'états de droit, simplement aussi d'un pouvoir qui arrête le pouvoir, donc qui exploite aussi les ressources, je dirais, du libéralisme classique contre les formes autoritaires.
On voit ça, mais ce qui frappe quand même, c'est à quel point l'illibéralisme a gagné du terrain, y compris, peut-être même surtout, à gauche, chez des gens qui ont oublié, au fond, une grande part de l'héritage qui renvoie à ces libertés individuelles, à l'état de droit, ce qui peut pas manquer d'inquiéter, parce que au fond vous essayez de tenir les deux bouts, Jean-Claude Monod, dans votre livre, c'est-à-dire à la fois la question du trop de pouvoir de l'État, mais aussi du trop de pouvoir d'autres types d'acteurs, et en particulier d'acteurs économiques extraordinairement puissants. Mais vous essayez de vraiment faire en sorte de lâcher aucun des deux.
Ben voilà, c'est une difficulté, mais je pense qu'il faut essayer de tenir les deux, puisque effectivement, le libéralisme a développé des espèces de garanties ou de contre-pouvoirs, le libéralisme juridique et politique classique, face aux excès de l'État et aux abus de l'État. Mais évidemment, on voit qu'il y a une forme de pouvoir qui peut s'exercer, qui ne passe pas prioritairement par l'État et qui tient à, au fond, un excès d'appropriation privée et à un abandon des dimensions du public ou du commun. Et ça, c'est une chose que je trouve qui a été bien thématisée par des gens comme Dewey dans une approche un peu pragmatiste de la démocratie, où Dewey disait qu'il y avait un conflit irrémissible entre la démocratie et le big business. Et donc, les libéraux classiques s'étaient attachés aux abus de pouvoir politique, mais qu'il fallait aussi s'attacher aux abus de pouvoir économique, et qu'il y avait une reconquête incessante de la démocratie contre des oligarchies économiques, ce qui est, je pense, une dimension importante. Mais effectivement, le problème, parfois, je trouve, c'est qu'à gauche, on estime que l'autoritarisme, c'est très mal si c'est néolibéral, mais ce n'est pas un problème si c'est un gouvernement de gauche ou un populisme de gauche qui l'assume. Et je trouve, voilà, ça donne lieu à des positions quasi schizoïdes ou schizophréniques par rapport à des répressions massives, mais dont on va dire, de toute façon, ce sont des peuples, enfin, ce sont des fractions, c'est la bourgeoisie qui s'est soulevée, et donc ça n'est pas un problème. Et donc là, je trouve que, voilà, d'ailleurs, ça, Foucault le refusait tout à fait, il me semble, à la fin des années 70, où à la fois il défend les dissidents de l'Union soviétique ou de la Pologne. Et d'ailleurs, on est frappé quand on relit, par exemple, cet épisode polonais. Même des gens au Parti Socialiste, Lionel Jospin, par exemple, dénonce Foucault et Bourdieu qui défendent le syndicat de solidarité et s'indignent de l'avenue de Jaruzelski en France. Et Lionel Jospin dit, oh oui, mais ces intellectuels qui veulent prouver leur anticommunisme à tout prix en protestant, on est assez étonnés. Mais c'est vrai que parfois...
Il y avait quand même Michel Rocard qui était...
Oui, bien sûr. Non, il y avait des... Mais c'est vrai qu'il peut y avoir cette tendance un peu au fond de la gauche, oui, à renoncer à ces dimensions qui me semblent, y compris d'ailleurs Foucault à certains moments, c'était pas du tout son registre favori, le libéralisme politique, mais on voit dans ces mouvements actuels, je trouve, voilà, l'importance des revendications démocratiques, des revendications d'une démocratie qui ne soit pas captée par des groupes politiques ou économiques, donc démocratie en un sens non corrompu, et ça, je crois que ça fait appel à des registres qui viennent largement du 18e et qui sont importants, et au fond, à côté de la généalogie critique que développe Foucault, moi j'aime bien cette idée d'une généalogie positive aussi, c'est une généalogie qui assume certains héritages. Je pense que Foucault d'ailleurs l'a fait en un sens avec les Lumières. Enfin, il y a eu un moment d'explication là-dessus. Et finalement, il s'est reconnu aussi dans une certaine attitude critique qui vient de ici l'art de ne pas être trop gouverné. Ça vient de la crise du pastorat chrétien, de la réforme. Ça vient des Lumières. Ça vient d'une attitude critique dont on peut assumer aussi l'héritage.
Alors, on parlera d'héritage sans aucun doute avec Philippe Artier dans la deuxième partie de l'émission. Et de l'héritage de Foucault, comment faire avec ces textes, ces concepts aujourd'hui, pour dans quelle mesure ils peuvent nous aider à comprendre une situation qui a évolué depuis 35 ans, et en particulier qui a évolué avec désormais la centralité d'une question qui est la question écologique, et que vous abordez dans cet essai aussi.
Oui, alors, dans ces luttes pour de nouvelles formes de subjectivité, dit Foucault, ou éventuellement des nouvelles formes de vie, il mentionne assez peu l'écologie. J'ai trouvé un texte, mais il y en a sûrement d'autres, j'ai pas du tout fait une recherche exhaustive, mais au fond, l'écologie ne me semble pas avoir tellement retenu son attention, mais on pourra en reparler tout à l'heure. Alors que c'est effectivement un terrain où certainement cette question de ne pas être trop gouverné ni par l'État, disons, ni par des puissances économiques qui imposent bien sûr un mode de vie, un mode de consommation, un mode de rapport à soi même, de plus en plus, je pense avec le numérique, je veux dire l'incitation économique vraiment s'insinue au plus intime des relations. Et donc, cette dimension écologique, elle vient au centre aujourd'hui d'un certain nombre de mouvements aussi qui disent d'une certaine façon, comme ces crises de gouvernementalité le faisaient dans le passé, nous ne voulons pas être gouvernés ainsi, nous ne voulons pas être gouvernés comme ça, pas par ses intérêts. Donc nous voulons que soit placé au centre de la question politique l'urgence écologique et la question aujourd'hui quasiment de la survie de l'humanité. Et ça, c'est quelque chose dont les prémices aussi étaient bien sûr visibles dans les années 60-70, et qu'il faut peut-être penser avec d'autres ressources que Foucault. Moi, je ne fais pas de Foucault l'alpha et l'oméga de la pensée critique. Il y a d'autres ressources qu'on peut solliciter et qui aujourd'hui nous invitent, à penser. Alors moi, je ce que j'appelle un peu l'usufruit du monde, c'est-à-dire un rapport qui là aussi désigne un abus, qui s'attaque à un abus, au fond un abus dans l'exploitation des richesses, des ressources naturelles, un abus dans l'appropriation privée des ressources, et qui, du coup, désigne quelque chose comme un usage qui ne serait pas abusif, donc un usage qui ne rendrait pas l'usage à terme impossible. Et ça, il me semble, c'est ce qui avait été un peu thématisé dans ces catégories qui sont à l'arrière-plan du droit de propriété, qui sont l'usage, l'abus et l'usufruit. Donc je pense qu'on peut un peu étendre, au fond, presque en termes d'économie politique, cette catégorie de l'usufruit pour essayer de
catégorie
de
juridique, qu'est-ce que vous entendez par là, du coup, l'usufruit du mot ?
Ben, l'usufruit, je pense justement, c'est l'idée d'un usage qui intègre le fait qu'on a affaire à du fini, à quelque chose qu'il faut restituer au moins en aussi bon état qu'on l'a trouvé. Et donc, c'est autre chose que voilà, l'usage. Vous savez, le droit de propriété est défini par le code civil, hein, dans des termes assez étonnants, puisqu'il inclut, hein, le droit d'user de la chose de la façon la plus absolue. C'est la formule. C'est la notion ancienne romaine d'abusus, c'est-à-dire ça inclut le droit de détruire la chose que l'on possède. Donc je trouve très frappant qu'il y ait dans le droit de propriété exclusif l'idée qu'on peut détruire ce qu'on possède. Alors que je crois qu'aujourd'hui, on voit d'ailleurs, y compris dans les transformations du droit de propriété, quelque chose qui se dessine et qui est l'idée qu'il faut éviter la destruction des ressources et donc qu'il faut prendre en compte dans l'usage des formes de partage et des formes de préservation de ce qui est utilisé. Et donc je trouve, voilà, cette notion, alors ça reste un peu à l'état de projet, hein, mais qui a des choses à redéployer au plan de la pensée de l'usufruit, qui d'ailleurs était utilisée par certains penseurs solidaristes en un sens comme ça plus large que celui simplement de l'usage des choses.
Alors, je posais la question de l'héritage et vous le précisiez à l'instant, c'est-à-dire que Foucault vous aide à penser un certain nombre de choses, y compris des réalités nouvelles, mais vous êtes dans une relation à cet auteur qui est une relation très libre en même temps et critique, ce qui vous semble la meilleure façon, au fond, d'hériter de son travail et de sa manière de travailler.
Oui, je pense que Foucault, dans la discussion avec Habermas et avec l'héritage des Lumières, dit il y a des piétés qui sont les plus sûres des trahisons. Hein, bon, moi je pense qu'il y a une piété qui, y compris vis-à-vis de Foucault, est la plus sûre des trahisons, notamment parce qu'il y a des moments où il a pris des positions qui, moi, me semblent impossibles, irrecevables, que ce soit au moment de la
pensée à l'Iran,
par rapport à la Chine ou par rapport à l'Iran. Alors l'Iran, c'est très intéressant, hein, c'est un moment très intéressant, mais effectivement, où je pense qu'il y a un des effets de, à la fois d'ailleurs, d'auto-aveuglement et le fait qu'autour de Khomeini, l'entourage de Khomeini avait produit aussi un discours à destination des intellectuels, avec gommé des aspects qui étaient quand même lisibles dans les écrits de Khomeini, mais c'est d'ailleurs amusant, j'entendais une intellectuelle iranienne qui disait que quand il recevait des intellectuels français, donc Khomeini disait oui, l'égalité homme-femme, pas de problème, etc. Mais en général, il ajoutait à condition de l'islam. Et ça, c'était gommé par les interprètes qui étaient plutôt des gens de gauche, marxistes, qui comprenaient qu'il valait mieux donner une image. Et à condition de l'islam, évidemment, ça ouvre une série de restrictions dont on ne sait pas jusqu'où elles pourront aller. Et bon, il y avait évidemment quelque chose de paradoxal dans le fait que, alors Foucault défend le soulèvement, il ne défend pas ce qui viendra après, mais il se demande, et d'ailleurs il lit ça beaucoup à la lumière de ce qu'il étudie au même moment, qui sont les révoltes autour du pastorat chrétien, les mouvements de réforme plus ou moins radicales, parfois de soulèvement populaire lié à la religion en même temps. Donc il y a une espèce de souci de penser que, au fond, dans le passé européen, il y a eu un usage de du référent chrétien qui pouvait être un usage subversif, et au fond, pourquoi il ne pourrait pas y avoir dans le rapport l'islam, voilà. Bon, ensuite, c'était aussi le risque, c'est le risque d'ailleurs assumé par Foucault, des reportages d'idées, de quelque chose qui est vraiment au milieu d'événements qui sont en train de se faire et dont on n'a pas évidemment tous les aboutissants.
Comment hériter de Michel Foucault, c'est l'une des questions qu'on se posera dans la deuxième partie de l'émission avec Philippe Artière, l'historien qui nous rejoindra après un extrait du nouvel album posthume de Leonard Cohen, It's Torn.
I see you in windows that open so wide, there's nothing beyond them and no one inside. You kick off your sandal and shake out your hair, the salt on your shoulders like sparks in the air. There's silt on your ankles and sand on your feet. The river too shallow, the ocean too deep. You smile at your suffering, the sweetest reprieve. Why did you leave us? Why did you leave? You kick off your sandals and shake out your hair. It's torn where you're dancing, it's torn everywhere. It's torn on the right and it's torn on the left. It's torn in the center, which few can accept. It's torn where there's beauty, it's torn where there's death. It's torn where there's mercy, but torn somewhat less. It's torn in the highest, from kingdom to crown. The messages fly, but the network is down. Bruised at the shoulder and cut at the wrist, the sea rushes home to its thimble of mist. The opposites falter, the spirals reverse, and Eve must re-enter the sleep of her birth. And up through the system, the worlds are withdrawn from every dominion the mind stood upon. And now that it's over, and now that it's done, the name has no number, not even the one. Come gather the pieces, all scattered and lost. The lie in what's holy, the light in what's not. The story's been written, the letter's been sealed. You gave me a lily, but now it's a field. You kick off your sandals and shake out your hair. It's torn where you're dancing, it's torn everywhere.
France Culture, la suite dans les idées, Sylvain Bourmeau.
L'essai de Jean-Claude Bonneau, dont nous parlons aujourd'hui dans l'émission, s'ouvre par cette phrase. Une part de la réflexion et de l'activité politique a pour objet la délimitation même du champ de la politique, ce qui fait directement écho à ce que souligne à l'issue de son livre Philippe Artière, bonjour.
Bonjour.
Historien, à savoir l'idée forte de la pensée de Foucault, écrivez-vous, est qu'il n'y a pas de dehors au pouvoir. Pas de dehors au pouvoir. Vous formulez cette phrase après, à l'issue pratiquement de ce livre, Le dossier sauvage, qui est une autre façon d'hériter de Michel Foucault, une manière pour le moins originale, Philippe Artière.
Oui, c'est d'abord une manière irrévérencieuse. Je crois que pour quelqu'un comme moi qui a cheminé pendant 30 ans avec les... Mais dans les papiers de Michel Foucault, voilà, c'était une manière aussi de d'essayer de réfléchir à ce que c'était que justement cet héritage et cette fréquentation qui n'est pas seulement celui de concept, qui est aussi celui d'une écriture, celui d'une manière de aussi d'intervenir dans l'espace social. On a évoqué l'Iran, on a évoqué la Pologne. Foucault, quand il voyageait, était extrêmement attentif à ce qui se passait, que ce soit au Brésil, où il a mené enquête autour notamment d'épidémiologie, ou que ce soit quand il allait en Californie. C'est précisément ça qui m'intéressait, c'était ce moment californien, non pas pour s'intéresser peut-être à des pratiques qu'on a beaucoup mis en avant ces derniers temps autour de prise de stupéfiants, mais plutôt sur un certain rapport à ce qui se passait devant lui, dont il était témoin, c'est-à-dire ces personnes qui faisaient communauté ou partaient, quittaient au fond les campus. Et
signifiait par là une forme de refus du mode de gouvernement, de gouvernementalité que leur appliquait la société.
Oui, alors dans un moment qui était quand même un moment extrêmement libéral au sens là des libertés publiques, puisque c'était en Californie.
Libéral au sens anglo-saxon du terme.
Anglo-saxon, et donc des personnes qui faisaient rupture. Et ça, je trouvais ça intéressant pour justement, disons, reprendre cette ce que j'avais vu moi dans les archives que Foucault avait travaillé. Et ce qui l'intéressait, c'était ces passages à l'acte. Ces passages à l'acte très radicaux, hein, que ce soit Rivière qui Pierre Rivière qui tue sa mère, son frère, sa sœur, hein, ou que ce soit d'autres qui décident soudain de d'expérimenter des pratiques de soi, ce que Foucault à un autre moment appelle Jean-Claude Monod l'évoque des contre-conduites.
Il faut dire un mot quand même de la démarche de votre livre, de son écriture. Peut-être en partant de cette phrase que vous avez mis en exergue, pas de publication posthume, Michel Foucault. Ça, c'est une phrase testamentaire. Alors donc, non, pas de publication posthume, mais vous poussez la subversion, au fond, Philippe Artière, jusqu'au fait d'inventer un travail, pas un livre, mais un travail qui aurait pu être fait par Michel Foucault et que vous prenez l'initiative de conduire à sa manière, au fond.
Oui, l'idée, pour un historien, c'est... Moi, j'ai commencé à travailler sur des dossiers, travailler sur des dossiers comme celui de docteur Alexandre Lacassagne, qui avait constitué un dossier avec des autobiographies de criminels. Je travaillais sur Thérèse de Lisieux, comment l'Église, une autre institution, constitue un dossier. Et je me disais, au fond, comment un philosophe comme Foucault et comment la postérité constitue des dossiers. Puisque on a la chance d'avoir un immense gisement, encore très méconnu, des archives, des papiers, des documents, de tout ce que Foucault a amassé, ce qu'il appelait l'autre objet, le troisième objet. Il y avait l'opus, il y avait la biographie, et puis cette autre chose qui émerge à partir du XIXe siècle et qui maintenant constitue l'objet d'institutions, de conservation. Voilà. Et je suis parti de là, c'est-à-dire je me suis dit, tiens, qu'est-ce que serait un dossier foucauldien aujourd'hui? Pas il y a 30 ans, même si, évidemment... Je le relis à une histoire, à une biographie foucauldienne.
Vous le rendez plausible d'une certaine façon dans la chronologie, mais
oui, je donne des éléments, disons, qui permettent de le foucaldiser, si j'ose dire. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de savoir, au fond, quel type d'archives pourrait aujourd'hui intéresser Foucault au regard de notre présent. Mais des archives du Second Empire. Notamment, j'avais été très frappé par un dossier, d'ailleurs un rapport devant l'Académie impériale de médecine d'un docteur Mesné qui vient parler d'un sauvage du Var. Sauvage du Var, qui est un homme qui a décidé de quitter son Dauphiné natal pour aller s'installer pendant plus de 16 ans dans une forêt au-dessus de Hyères et vivre là des produits de son corps. Et en rupture totale avec cette révolution industrielle qui émerge, évidemment.
Alors là, on n'est plus dans l'art de ne pas être trop gouverné, Jean-Claude Monod, on est dans l'art de ne pas être du tout gouverné, au fond.
Oui, d'ailleurs, Foucault utilise parfois les deux formules. Il parle de l'art de ne pas être trop ou tellement gouverné, voire peut-être de ne pas être gouverné du tout, comme une aspiration qui ressurgit périodiquement. Et effectivement, je pense que c'est intéressant de prendre ces figures limites des gens qui ont voulu alors non seulement se déprendre des rapports, disons, sociaux, créer des communautés, mais même qui ont poussé la chose jusqu'à s'isoler complètement dans la forêt. Ce qui rappelle, enfin, Foucault s'est beaucoup intéressé des réformes, vous le rappelez dans le livre, d'érémitisme, les ermites. Donc il y a quelque chose qui est peut-être aussi un peu transversal. Il y a un rapport à l'histoire qui est toujours compliqué. Enfin, est-ce que ce sont des figures transversales qui changent de point d'ancrage, qui finalement, aujourd'hui, le font plutôt au nom de la nature, d'un rapport à la nature, et qui à un moment le faisaient plutôt au nom d'un rapport à Dieu, plus direct. Voilà. Mais Et bon, un des textes extraordinaires de Foucault qui nourrit, je pense, des pratiques d'ailleurs diverses, pas seulement philosophiques, mais aussi artistiques, c'est la vie des hommes infâmes, c'est-à-dire aller chercher ces vies qui ont été documentées quand elles ont croisé, au fond, des organes de pouvoir, l'Académie de médecine, des médecins qui parlent d'hystérie. Et puis, c'est des vies, elles disparaissent une fois qu'elles sont plus sous les projecteurs de ces pouvoirs. Et il y a une extraordinaire puissance, je trouve, d'évocation, d'imaginaire qui s'attache à ces vies-là, à la fois dans leur singularité et dans le fait qu'elles sont souvent dans un rapport de rébellion ou de... Voilà, c'est ce qu'il appelait aussi les contre-conduites. C'est...
Philippe Artien ?
Oui, elles sont, ce sont des contre-conduites, mais ce ne sont pas, et vous en parlez dans votre livre, ce ne sont pas forcément, c'est pas contre, c'est aussi
oui,
pour.
Oui,
et c'est ça qui est intéressant.
Ouais.
C'est-à-dire que ce soit Laurent, ou l'ermite des monts du Forez, puisqu'il y avait là une poche d'érémitisme très importante, laïque, hein, ou aux États-Unis, Kaczynski et dans le Montana.
Là, ça tourne un peu à la contre.
Alors là, c'est contre, mais dans un premier temps, c'est quand même une pratique qui est d'invention. De mode de vie, c'est-à-dire il construit sa cabane, il imagine sa vie, et quand on l'interroge sur sa vie quotidienne, en somme, le contre, c'est-à-dire l'opposition, ce qui va ensuite être faire de lui Yona Bamber, c'est dans un second moment. Le premier moment, c'est quand même celui d'une écriture, puisque c'est le moment où il écrit ses grands textes manifestes. Contre la technologie, parce qu'on n'a pas parlé de technologie, on a parlé plutôt de gouvernement économique, mais ces figures là sont tout à fait s'inscrivent dans une réflexion sur la technologie. Et d'ailleurs, ça amène aussi, et ça je ne l'ai pas exploré, je le laisse aux philosophes, mais la présence quand même de beaucoup de notes de Foucault sur Heidegger.
Oui.
Qu'on a pour l'instant un peu écarté parce que ça nous arrangeait, je dirais. Ça nous arrangeait politiquement, ça nous arrangeait, mais il faudra bien à un moment donné réouvrir le dossier Heidegger. Et il y a à la Bibliothèque nationale de France où sont conservées les archives, beaucoup de notes et
Jean-Claude Menot sur ses références à Heidegger.
Bon, de toute façon, il y a un libre usage par Foucault des références philosophiques. Au fond, Nietzsche, il en fait quelque chose, c'est le Nietzsche de Foucault. Hein. Et Heidegger, il en fait aussi le Heidegger de Foucault. D'une manière très intéressante, d'ailleurs, parce qu'il reprend la critique de la technique, mais il la déplace complètement en parlant d'une histoire du rapport, non pas entre la technique et l'objectivité, mais entre la technique et la subjectivité. Il invente cette notion de technique du sujet au pluriel. Et alors là, il y aurait tout un jeu d'écart par rapport à Foucault, à Heidegger, à la fois de reprise, parce que, bon, Foucault considérait que Heidegger est un grand philosophe, je pense à juste titre, mais aussi d'écart, parce qu'il y a quelque chose qui est très différent, notamment dans la réévaluation de la subjectivité par le Foucault des années 80, mais une subjectivité qui est formée par des techniques. Et ça, c'est quelque chose de très original et qui reçoit quelque chose de Heidegger tout en ayant un rapport critique à cette référence très complexe.
Oui.
Philippe Artier, vous parlez à propos de votre livre, Le dossier sauvage, d'histoire contrefactuelle. Je vous ai invité dans la deuxième partie de l'émission, pas dans la première. Donc dans la deuxième, où en général, si les choses sont bien rangées, on trouve plutôt des écrivains ou des artistes. Vous êtes historien, vous êtes directeur de recherche au CNRS. Comment qualifier ce texte ?
Bon, d'abord, Sylvain, vous savez que je suis pas bien rangé, donc dans la seconde partie, je trouve que ce n'est pas un pas de côté. J'ai commencé à faire de l'histoire il y a maintenant 30 ans et toujours dans ce rapport aussi à la fois une attention au discours et une attention à l'articulation ou au montage ou au, on pourrait même dire à la manière de déplier ces sources pour l'histoire et avec elles ces figures. Faire entendre ces figures, c'est d'ailleurs quand j'ai reçu des premiers, disons, réactions au livre, c'était son forme, c'était vif, extraordinaire. Enfin, quelle beauté que ces textes sur ses vies. Et pour moi, c'était le voilà, c'est le plus beau des compliments en ce sens que il y avait là, dans ces textes, ce que vous avez bien dit, c'est-à-dire cette rencontre extraordinaire entre le pouvoir et ses sujets. Et c'est de cette rencontre que naissent ces textes. Kaczynski, quand il parle de sa vie dans le Montana, c'est bien un inspecteur de police ou un psychiatre.
Non mais d'accord, Philippe Artier, mais il y a ces textes, ils sont forts, ils sont littérairement forts aussi, et c'est des écritures, mais vous faites aussi le choix dans le montage, dans le collage que vous faites, du recours à la fiction par exemple. Du recours à la fiction pour mettre en scène, mettre en forme ce travail, cette enquête.
Oui, parce que et ça c'est quelque chose pour un historien, ayant été instruit, élevé par des historiennes fortement lectrices de Michel Foucault. Je pense à Michel Perrault qui disait toujours Philippe, vous écrivez votre premier livre pour une thèse et un livre. En ce sens, ce premier aussi, une première histoire. Ce livre-là, il vient après d'autres histoires, non pas, c'est pas d'autres saisons qu'il faudrait voir pour comprendre, mais il s'inscrit à la Villa Médicis, Villa Médicis où j'avais déplacé aussi une manière d'enquêter sur ce qui est ma spécialité, c'est-à-dire quand même l'histoire des déviances et l'histoire du crime, sur un terrain qui était un terrain de la performance dans l'espace public, de mise en scène de l'enquête, tous ces gestes qui constituent, me semble-t-il, les gestes du chercheur et qui me semblaient intéressants et importants de donner à voir.
Merci beaucoup Philippe Artier. Je rappelle le titre de ce livre, Le Dossier Sauvage, il paraît aux éditions Verticales. Et merci à Jean-Claude Monod. Je rappelle le titre de votre livre, L'art de ne pas être trop gouverné, il paraît aux éditions du Seuil. Vous retrouvez les références bibliographiques des deux ouvrages sur la page de la suite dans les idées, une page sur laquelle vous pouvez réécouter l'émission et vous pouvez vous abonner au podcast. C'était la suite dans les idées. Sylvain Bourmont, attaché de production Marie Dalquier, à la technique aujourd'hui Olivier Dupré, à la réalisation Marie Placet. Et c'est Christine Bernard que vous retrouvez dans quelques instants sur l'antenne de France Culture pour une histoire particulière.